tous et bienvenue dans cette émission. Ce lundi 30 juin 2025, la République démocratique du Congo va célébrer le 65e anniversaire de son indépendance. C'est le 30 juin 1960 que cette ancienne colonie belge avait accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Du point de vue politique, la crise en RDC découle d'une série de luttes post-coloniales pour le pouvoir qui a débuté après que le pays a obtenu son indépendance. Depuis des décennies, les conflits sont alimentés par des tensions ethniques, des rivalités politiques, la corruption et la lutte pour le contrôle des ressources naturelles précieuses avaient révélé un rapport d'Amnesty International. Sur le plan socio-économique, malgré la présence des ressources précieuses telles que les cobalt et les cuivres sur son territoire, la RDC fait partie des pays les plus pauvres du monde. Le manque des perspectives économiques est un obstacle qui prive les personnes de leurs droits humains aux soins de santé, à la nourriture et à l'éducation, précise de ces rapports. Quelle analyse faites-vous de la situation socio-économique et politique de la RDC pendant ses 65 ans d'indépendance? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons ici au studio Thomas Luaka Losenjola. Il est passionné de l'histoire de la RDC, chercheur en histoire. Il est ministre et député national honoraire. Bonsoir, honorable Thomas Luaka Losenjola.
Bonsoir, monsieur Dumaté.
Witt Mulongo, il est professeur émérite à l'université de Lubumbashi, il est écrivain et acteur politique. Bonsoir professeur Witt Mulongo.
Bonsoir cher ami.
Et Mwaila Chiembe, professeur, il est directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Bonsoir professeur Mwaila Chiembe.
Bonjour Dimaté.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, ce lundi 30 juin, la RDC va célébrer le 65e anniversaire de son indépendance, obtenue le 30 juin 1960, 65 ans après. Quelle analyse faire du point de vue socio-économique et politique? Le professeur Ngoma Binda, politologue et auteur de plusieurs ouvrages sur l'éthique politique, pense que nous avons beaucoup reculé. On l'écoute dans cet extrait choisi par Benjamin Mudumbi.
65 ans après, je pense que nous avançons, mais nous avançons trop lentement. Sur le plan économique, c'est clair et net, nous avançons trop lentement et même nous reculons. Parce que les années qu'on a connues de Mobutu nous ont produit des œuvres véritablement communes. C'était une période, qu'on le veuille ou non, relativement stable et économiquement plus rentable, plus perceptible que maintenant. Par exemple, comment comprendre que tout un pays n'est pas des banques personnelles? Comment comprendre qu'un pays n'est pas des compagnies d'aviation véritables? Sur le plan politique, il y a la stabilité malgré ce qui se passe à l'est du pays. Mais, en vrai dire, il faut qu'on fasse attention sur le plan des partis politiques. Sur le plan des partis politiques, nous constatons qu'il y a énormément de partis. C'est du désordre, carrément, sur le plan politique. Et cela amène à des problèmes très graves, comme les problèmes de fraude électorale et de corruption. Sur le plan social, les salaires sont demeurés très insuffisants. Je crois que s'il faut faire mieux, c'est pour penser au social du citoyen. Les conditions, les routes qui ont disparu pratiquement sur toute l'étendue du pays, ça ne fait pas avancer le pays. Je crois qu'il y a un effort énorme qu'il faut faire.
Thomas Luaka Losenjola, vous êtes passionné de l'histoire de la RDC, chercheur en histoire. Vous êtes ministre et député national honoraire. Et quelle analyse vous faites d'abord de la situation socio-économique pendant ces 65 ans d'indépendance?
Merci beaucoup pour l'invitation. Non, la première des choses à dire, lorsqu'on regarde les 65 années de notre indépendance, on peut constater tout simplement qu'il y a un très beau gâchis. Nous avons gâché toutes les opportunités que nous avons. Juste vous donner quelques exemples concrets. Sur le plan sanitaire, par exemple, en 1960, et ça tous les Congolais connaissent ça, les habitants de l'Afrique du Sud qui avaient les moyens venaient se faire soigner dans les hôpitaux de la Gécamine à Lubumbashi. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'un Sud-Africain va avoir ne fût que l'idée de venir se faire soigner en RDC. Toujours sur le plan socio-économique, en 1960, lorsque Lumumba décide de quitter Kinshasa pour aller à Kisangani, il prend sa voiture. Il prend sa voiture pour quitter Kinshasa jusqu'à Kisangani. Il n'était pas fou parce que la route était praticable. Aujourd'hui, je ne dis pas une voiture, même avec une Jeep 4x4, vous ne ferez pas cette folie-là parce que vous n'allez pas dépasser Kikwiti ou bien Idiofa. Vous n'irez pas plus loin. Donc voilà, pour nous, les choses se sont dégradées. Depuis 50 ans, nous avons reculé. Les profs ont dit que nous avons avancé. Je crois que c'est...
Lentement. Il a répondu de même que nous avons reculé.
Non. Concrètement, nous avons reculé. Cela est dû à plusieurs facteurs, mais juste un facteur que je peux donner. En 1960, lorsque nous accédons à l'indépendance, les Congos comptent à peu près 15 millions d'habitants. 65 ans plus tard, la population a été multipliée par 7. Aujourd'hui, on estime la population congolaise autour de 105 millions d'habitants. Donc, vous passez de 15 millions à 105 millions d'habitants, les infrastructures n'ont pas suivi. Donc, la situation ne peut que se dégrader, l'économie n'a pas suivi, donc, la situation ne peut que se détériorer.
Voilà, il est dit que, en fait, l'histoire nous renseigne qu'on accédait facilement à l'enseignement à l'époque, on accédait facilement aux soins de santé, et les personnes qui finissaient leurs études n'avaient pas de difficultés, n'est-ce pas, pour attraper du travail, parce qu'il y avait des politiques cohérentes de l'emploi. Et comment vous expliquez que l'on n'a pas pu sauvegarder ces acquis?
On n'a pas pu sauvegarder ces acquis par deux facteurs. Le premier facteur, c'est par incompétence. Les Belges ne nous ont jamais appris à gérer un État moderne. Lorsque nous accédons à l'indépendance, le président de la République, celui qui devient président de la République, la plus haute fonction qu'il a occupée dans sa vie, il était bourgmestre d'une commune de la ville de Kinshasa, commune de Dendal, qui est devenue Kasavub aujourd'hui. Le premier ministre, celui qui devient premier ministre, était directeur adjoint chargé du marketing dans une brasserie locale. Donc, aucun politicien de cette époque n'avait cette expérience qu'avaient, par exemple, les Sénégalais, les Ivoiriens, même les Congolais de Brazzaville. Les Français l'ont appris, initié à gérer un État moderne.
Et donc les gens n'étaient pas qualifiés à gérer.
Les gens n'étaient pas qualifiés. La conséquence, c'est quoi? 6 mois après l'indépendance, Lumumba meurt au mois de janvier. À la mort de Lumumba, le pays est coupé en 4 morceaux, avec 4 gouvernements et 4 armées différentes, 6 mois après l'indépendance. Et aujourd'hui, 65 ans plus tard, on peut penser que c'était une maladie infantile, hein? Ça nous a pris, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, les gouvernements de Kinshasa ne contrôlent pas des provinces de l'Est, sans parler de l'Ituri.
Comment vous expliquez cela? Parce qu'aujourd'hui, les personnes sont quand même qualifiées, hein? Les maréchals étaient entourés des professeurs d'université, et Laurent Désiré Kabila était entouré des savants, Joseph Kabila, même le président Félix aujourd'hui a des têtes autour de lui.
Oui.
Pourquoi comment on n'arrive pas, n'est-ce pas, à inverser la tendance?
En réalité, c'est lié à la culture. Il y a une culture politique nocive qui s'est installée depuis 60 et qui nous accompagne. Je donne un exemple. J'ai toujours dit que les musiciens et les politiciens congolais, les jours où ils vont se comporter comme les musiciens congolais, ce pays va décoller. Ça veut dire quoi? Dans un orchestre congolais, aucun patron d'orchestre ne peut embaucher un individu s'il n'est pas compétent. Pour intégrer un orchestre congolais, il faut savoir jouer des instruments ou bien il faut savoir chanter. La compétence prime sur tout autre critère. Amitié, tribal ou tout. Les chefs d'orchestre ne tiennent pas compte de tous ces critères. Mais ce n'est pas le cas dans la politique. la politique, nous avons des affinités socio-tribales qui priment, socio-culturelles qui priment parfois sur la compétence. Donc ça, c'est un premier élément. Au-delà de la compétence, il y a une culture des népotismes et des clientélismes qui nous accompagne hein, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qui ne permet pas d'arriver à bon port ou bien de changer la dynamique des choses. Quel que soit le secteur, on a vu des gens qui n'ont ni les profils, ni la compétence occupés des hautes fonctions dans ces pays. Et puis il y a un autre élément aussi. Nous avons désacralisé les fonctions de l'État dans notre pays. Et aujourd'hui, vous prenez n'importe quel Congolais, vous lui proposez n'importe quel poste, il va accepter. Il va dire non, je veux me débrouiller. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il a vu des gens qui n'avaient pas les profils nécessaires occuper de hautes fonctions dans ces pays. Donc voilà, cette culture nocive qui va au-delà des individus, hein, parce que je vois beaucoup de gens... c'est débattre sur le fait que, oui, si nous avons reculé, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel. Non, nous allons changer autant de présidents de la République que nous voudrons. Si nous ne changeons pas notre façon de faire la politique, on n'ira nulle part.
Voilà, si le plan économique, nous étions la RDC, les AES de l'époque, hein, nous étions parmi les top 3, n'est-ce pas, en Afrique et aussi au monde, on exportait... les VA, on exportait le riz, on exportait l'huile de palme, le café et tout ça. Et selon les experts, c'est la politique des aryanisations ou nationalisations qui avait été prônée par les maréchals vers les années 71, 72, 73 qui serait à la base, n'est-ce pas, du fiasco que nous avons connu sur le plan économique à l'époque. Est-ce que vous confirmez cela ?
Je confirme cela pourquoi ? L'État congolais n'a pas suffisamment de capitaux pour créer des entreprises et créer de l'emploi. Donc il faut attirer les investisseurs privés nationaux ou étrangers. Maintenant, ce qui a été fait dans les années 70, où par décision politique, on confisque les industries, les sociétés des étrangers pour les confier à des Congolais, ça a complètement démotivé les gens et ça a laissé une très mauvaise image. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont là. Par la taille, la RDC, avec ses 2 345 000 km, est 11e pays au monde par la taille, sur les 193 pays qui existent au monde, reconnus par les Nations Unies. Par la population, 112 millions, nous sommes le 15e pays, donc 11e et 15e pays. Mais lorsque vous regardez l'indice de développement humain, la RDC est 169e dans le monde, donc c'est le peloton des gens qui sont en arrière, quoi, qui ont échoué. Donc, ce que le maréchal avait fait avec la zaïrianisation a un impact jusqu'à aujourd'hui, parce que quelqu'un, prenons un richissime américain, il a 50 millions de dollars à investir en Afrique. Honnêtement, entre le Ghana, l'Afrique du Sud, le Botswana ou le Kenya, la Côte d'Ivoire et la RDC, il choisira quel pays ? Je ne pense pas que la RDC sera sa priorité.
Et selon vous, sur le plan politique, pourquoi les choses n'ont pas changé ? Les générations se succèdent, mais c'est les mêmes comportements, c'est la même psychologie, les mêmes tics, les mêmes attitudes. Pourquoi les choses n'ont pas changé ?
Avec la situation des générations, les choses n'ont pas changé parce que la conception que nous avons de la politique est biaisée. C'est quoi la politique au Congo ? La politique, je peux la définir comme ça, c'est une lutte acharnée pour l'accès aux ressources du trésor public. Il y a des groupes politiques qui se battent pour prendre le contrôle de l'appareil de l'État en vue d'accéder aux ressources du trésor public. Comment on le sait ? Regardez lorsqu'il y a un gouvernement, une mise en place dans les entreprises publiques qui s'est fait, après la publication du gouvernement ou la mise en place des entreprises, il faut écouter les gens qui sont dans la famille majoritaire, les mécontents. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nous avons tout fait pour soutenir le président de la République, mais nous ne nous retrouvons pas. Ils n'ont pas fait la politique pour développer les pays. Ces gens-là font la politique pour se retrouver. Et ils le disent. Nous ne nous retrouvons pas. Donc les gens la politique au Congo, c'est pour se retrouver.
Un problème culturel.
C'est un problème culturel. C'est un problème culturel parce que c'est soutenu même par la population. Quand j'entends parfois la population critiquer les politiciens, je suis politicien, je vis avec la population, il y a des choses qu'on a entendues, des choses terribles. Quelqu'un qui vous conseille dit Mokondi, Momango Yangoyo. En français, c'est le moment. Vous demandez le moment de faire quoi? Non, vous savez, vos histoires là, ça ne dure pas. C'est le moment, il faut qu'on se retrouve. Donc voilà, avec cette mentalité-là, où chacun veut se retrouver, c'est comme si on avait tué un éléphant, chacun veut prendre un morceau, on ne va pas se développer. L'État est considéré comme un terrain de chasse. Alors, lorsque c'est un terrain de chasse, on accorde des permis de chasser. Et celui qui a de la chance va avoir un coin giboyeux, là où il y a beaucoup de gibier. Et on sait très bien, dans la répartition des postes ministériels des entreprises, quelles sont les zones giboyeuses. Lorsque vous êtes nommé ministre du budget, c'est des exemples que je donne comme ça, sans viser personne. Ministre du budget, ministre de l'industrie, ministre, je ne sais pas, oui, les gens pensent que là-bas, on se retrouve facilement. Mais lorsque vous êtes nommé ministre de la culture, on considère que on ne vous prend pas au sérieux. C'est parce que vous ne pèsez pas beaucoup. Alors que la politique dans les autres pays qui vont de l'avant, la politique, c'est pour résoudre les problèmes de la population et non pas que les élites se retrouvent dans la gestion du pays.
Merci, Witi Mulongo, professeur émérite à l'université de Lubumbashi. Vous êtes écrivain et acteur politique. Et pour vous, comment vous analysez, n'est-ce pas, les 65 ans de la RDC sur le plan socio-économique?
D'abord, je voudrais saluer non, mais disons les autres intervenants qui ont eu, à mon sens, une lecture qui pouvait même arrêter l'émission si on voulait, hein, parce qu'ils ont donné des réponses rapidement à votre question. Maintenant, je pense qu'il y a à boire et à manger. J'ai aimé la réaction de l'excellence honoraire
Thomas Louaka,
lorsque il retouche un tout petit peu à l'affirmation du professeur Ngoma, hein, qui dit on avance mais lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avancez mais lentement. mon Dieu, professeur, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais, Guy Maté, vous dire que en deux mots comme en mille, notre pays est dans un coma indicible. Et la capitale Kinshasa, d'où je viens, est profondément constipée. Regardez. Entre 60 et 70, nos parents assuraient trois repas à leurs enfants. Matin, midi et soir. Sur le plan du transport, les enfants allaient à l'école le matin par les bus. Le bus les ramenait à midi pour prendre un petit repas, un petit repos, un bain, on les ramenait à l'école. Je suis fort aise pour donner cet exemple parce que j'ai connu les deux espaces et le Katanga et Kinshasa où il y a où j'ai aussi une grande part de ma jeunesse. Ça s'est passé comme ça. Je crois que c'est Thomas Louaka qui a donné l'exemple du héros Lumumba qui a fait la route pour faire Kisangani. Mais je voudrais le relayer pour dire rien que dans les années 70. J'étais le cadet des Mulongo qui éditait le journal, la revue Jeune pour Jeune, Apollo Sac, Kikwate et tout le reste. Mais mon ami Guy Maté, savez-vous que lorsque nous sortions la revue Kate, qui était embarqué par un extrafait ça faisait Bandundu, Kasaï, Lubumbashi. Dans un maximum d'un jour et demi, deux jours, si je suis en harmonie avec ma mémoire. Non, mais vous voyez ça aujourd'hui? Et ça, c'est avancé lentement. Si les collègues professeur me suit, est-ce que ça, c'est avancé?
Il a quand même reconnu, hein, il a reconnu que nous reculons. Il a rectifié après.
Oui, en commençant par dire on avance lentement, etc. Non, la vérité, c'est que nous reculons énormément. Alors, je dirais aussi, par exemple, que le vagabondage n'existait pas. La voyouerie, si je peux dire, ça n'existait pas. Déjà, du temps belge jusqu'à ce que Mobutu arrive, on ne quittait pas un coin comme ça. Comme on quitte une chambre pour aller dans une autre chambre. Il y avait des règles. Lorsque vous étiez installé, vous vouliez vous installer dans certaines villes, vous deviez justifier les centres de tout ça. Et quand vous n'aviez plus du travail quelque part, vous étiez censé rentrer. Je veux aussi vous dire que, économiquement, je parle à l'historien que Thomas Louaka, en fait, je parle tout en contrôle, je ne suis pas historien. Entre 60 et 70, 80, un likuta était égal à combien de dollars? J'étais tout génaux à Kinshasa, un lipa, le pain que nous appelions lipa. Il était très kilométrique. C'est métaphorique ce que je dis. Mais c'était un likuta. Quand ça a un peu bougé, c'était deux makuta. Et je me souviens que dans les années, à la fin des années 70, lorsque ça monte un peu, les Quinois qui ne manquent pas d'imou, lorsque l'économie a bougé un peu, il y a un humoriste qui disait, est-ce que Bobo n'y prie à Kwanga? Panji peut diminuer. Juste parce que la Chikwanga Mugabe on dit ainsi peut diminuer.
Professeur Witt. Professeur.
Oui.
Voilà, s'il faut prendre l'exemple de la Gécamine qui était pendant longtemps les fleurons, n'est-ce pas, de l'économie de ces pays, qui donnait une part importante, n'est-ce pas, au budget de chaque année dans ces pays, comment on peut expliquer qu'on n'ait pas été à mesure, n'est-ce pas, de maintenir cette Gécamine dans sa configuration datant, et qui produisait, n'est-ce pas, beaucoup, et qui apportait beaucoup à l'État congolais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des choix qu'on opérait, des choix économiques qu'on opérait, par nécessité ou par contrainte, qui peuvent, n'est-ce pas, expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les cas de la Gécamine, parce qu'on a... On a les gens qui expliquent la chute de la Gécamine, ils essayent de situer ça à l'époque de Moïse Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il faisait face à l'agression du pays, il avait besoin de l'argent, et donc on a sacrifié la Gécamine pour ce qu'on a appelé l'effort de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas des choix qu'on fait par contrainte, par nécessité?
Dans tout ce qu'on dit, il faut savoir raison garder. Écarter le sentimental. Je pense que déjà Louaka a donné une première raison. Des hommes, les gestionnaires. Sauf que je lui discute cette conception ce principe de on n'a pas été formé pour, attendez. Attendez, Kongolo Mwamba avait été formé par qui pour gérer un si grand empire? Et comment je peux dire ça? Oui, le Congo avait été à quelle école pour gérer un royaume tel que celui-ci? Non, je crois qu'on doit savoir modérer certains principes et éviter cette histoire du mythe du diplôme. Mobutu a pris le pouvoir avec les gens qui avaient quelle formation, quel grade. Mais ils nous ont nourris. Moi, je fais partie des jeunes qui ont combattu Mobutu très tôt. Mais je l'ai combattu beaucoup plus politiquement. Et en tant que scientifique aujourd'hui, je dis toujours aux étudiants qu'on n'a pas encore eu Mobutu sur le plan économique, sur le plan culturel et tout le reste. Mobutu nous a fait respecter à travers le monde. Il a entretenu nos routes. Les enfants des Quinois, nous sommes dans les années 70 et même 80, les enfants des Quinois allaient étudier au Bas-Congo. Et ils rentraient par Elébul et le Kimalumalu, parce que la route le permettait. Donc le mythe des diplômes aussi, il faut faire extrêmement attention. Alors là, je termine. Surtout, prenons d'abord un peu...
Il n'y a pas que la Gécamine, hein, même la Biba aussi, il n'y a pas que la Gécamine, hein, même la Biba aussi. Sacrifié oui, pour ce qu'on appelait l'effort de guerre.
Attendez, je crois qu'il y a des faussetés qu'on doit corriger, et Thomas Louaka, qui aime bien l'histoire, et je l'aime pour ça d'ailleurs, je lui passe un petit bonjour, Louchois.
Bonjour, professeur.
Doit aussi faire attention à ça. J'étais au ministère de Mines avec le ministre Kibasa. Moi, je sais comment Mouzé a mené la guerre. C'est toujours autour de cette histoire semi-tribale et tout le reste, où on dit non, c'est Mouzé a fait ceci, a tué la Miba. Ce n'est pas vrai. Guy Maté, je veux vous dire, laissez-moi vous informer, vous donner une information que personne n'a. C'est un scoop que je vous donne. Moi, j'ai participé dans l'opération que Mouzé avait mise en place pour faire la guerre. Grâce à Kibasa Maliba et aux indicateurs, anciens collaborateurs des mouvementés qui avaient fui Mouzé et qui avaient laissé des lingots d'uranium et de tout le reste qui étaient enterré. Moi, j'ai participé à récupérer des uraniums avec des faux opérateurs économiques qui venaient acheter ça faussement et on les arrêtait. Vous pouvez poser la question au général Capin, parce que c'est le général Capin qui nous aidait à traquer tous ces gens-là. On les attrapait et on récupérait ces victoires-là. On allait remettre à Moudé, à son palais de... comment on appelait ça encore hein? Le palais qui est... j'ai oublié le...
Palais
à ma campagne là-bas, le palais de ma campagne.
De marbre.
On allait lui remettre ça. Mboujima, il faut faire attention. La Miba a été saignée, la Miba a été saignée. Qui maîtrise ça? Mouzé a fait créer une société appelée Sengamine là-bas. Donc... si Emiba et la Gécamine sont descendus plus bas que terre, je pense que Thomas Louakala a insinué, c'est une histoire d'homme. Parce qu'à un moment donné, les raisons d'accès au pouvoir n'étaient plus le développement du pays, mais le développement de leur poche.
Merci.
Le développement de leur socialité économique.
Merci.
Pour avoir des résidences en Afrique du Sud, pour avoir des résidences en Belgique. Il y a des gens qui se retrouvent dans ce que j'ai dit, à Rhodes-Saint-Genèse, là-bas à Bruxelles. Les anciens Gécaminards qui pérorent beaucoup aujourd'hui, quand je les entends, mais ne peuvent pas parler là où je suis, parce
merci.
Que je connais leurs secrets.
Merci, professeur.
Ils étaient à la tête de la Gécamine, mais ils investissaient à Rhodes-Saint-Genèse.
Merci, on a compris.
Et ils ont vidé la Gécamine. Et bon, même l'histoire de la zérianisation, il faut avoir toute raison gardée, hein, parce que l'idée que Mobutu avait, elle n'était pas mauvaise. Mais on ne peut pas condamner Mobutu pour avoir permis, donner l'occasion aux Congolais de récupérer leur économie. Et ils s'y sont pris. Moi j'étais, je ne vais pas citer les gars, mais il y a un grand artiste qui est devenu doyen aujourd'hui, qui avait pris une boutique d'habits sur le boulevard du 30 juin là-bas. parce que, comme Thomas l'a dit, les Kindeko, les Kindeko et les Kindeko, on lui avait donné aussi, mais sans être intelligent, parce que ce que nous avions chassé, c'est à qui on avait arraché ces biens-là. C'est eux qui avaient des marchés en Europe.
Merci.
Nous, on a continué seulement à vendre. Et quand les stocks étaient terminés, il fallait commander. Moi, vous alliez commander où?
Merci.
Vous alliez commander là où ce que vous aviez fait mal sont rentrés. On a bloqué la machine.
Merci, on va vous redonner la parole, professeur.
On a reculé,
on a compris.
Moi, je me résume simplement, Guy Maté, en disant que le pays est totalement en déchéance et la capitale très constipée. J'en profite d'ailleurs pour dire aux gens, vous savez, on a même pas le sens de la continuité de l'État, le principe de la continuité de l'État. J'entends les gens dire, Kintasa, ils en ont beaucoup, vous avez pour combattre, vous avez n'importe où et tout ça. Mais même ceux qui babouent à Kiangola où vous voulez, ça va aller où? Ça va aller où? Parce qu'on a construit sur de canalisations.
Merci, professeur Wit Moulongo. Merci, on va vous redonner la parole. Moïla Chiembe, professeur, vous êtes directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Votre analyse du point de vue socio-économique.
Ben écoutez, Guy Maté, je pense qu'à partir de ce que mes collègues, notamment le ministre Thomas Loaka, que je remercie, le professeur Moulongo et mon ami Ngoma Binda, la situation de la République démocratique du Congo depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, si vraiment on est sérieux, le bilan est globalement négatif. Le point le plus important dans tout ça, indépendamment des quelques prouesses sous l'origine de Mobutu, c'est qu'aujourd'hui, 65 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo n'est pas un état gendarme. Depuis la mutinerie du 5 juillet 1960, qui a été la cause primordiale de la débâcle de la force publique, y compris la police, y compris les services de renseignement, y compris le départ de l'encadrement belge du pays. Un État souverain, 5 jours après l'indépendance, n'a plus l'exercice de souveraineté, c'est-à-dire le monopole de la violence légitime. À cela s'ajoute, Guy Maté, le 11 juillet 1960, la province minière du Katanga déclare son indépendance. Ce qu'on a appelé, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui, le début ou la tentative de balkanisation. Depuis cette affaire de la tentative de sécession du Katanga qui a duré, M. Moulongo peut me corriger, au moins, au minimum 2 ans, les événements de l'Est, les milliers, je ne sais pas combien de centaines de milliers de groupes armés à l'Est. Il y a même des groupes armés dans le Maïndombé, dans le Kikwi, à quelques pas de la capitale de la République démocratique du Congo. Donc, l'investissement qui a été fait avec les phases, et j'en passe les meilleurs, aujourd'hui, le résultat est le contraire de tout ce que tout le monde pensait, sans faire les détails. L'État gérant, nous n'avons pas d'État gendarme, nous n'avons pas un État gérant. Si vous voyez, il est vrai qu'il n'y a pas qu'en République démocratique du Congo, où il y a la corruption, où il y a des détournements de deniers publics. Mais chaque fois qu'on annonce les détournements, c'est en millions. Et ces millions, si on en donnait même un seul à nos universités, aux écoles, aux hôpitaux, aux routes, on peut, en l'espace de quelques années, faire un bilan, positif ou négatif, mais au moins avoir quelque chose de construit. Il n'y en a rien. L'État congolais n'est pas un État gérant. Et si vous ajoutez, M. Moulongo l'a dit tout à l'heure, le ministre Thomas Loka également, l'État savant, l'intelligence n'est pas au pouvoir en République démocratique du Congo. On a des diplômés, on a des gens dévoués, mais ça ne suffit pas. Alors, lorsqu'on n'a pas un État savant qui regarde, qui se projette dans le futur, à partir du présent, qui tire les leçons du passé, qui tire les leçons du présent, on tourne en rond. Évidemment, quand vous entendez, comme tout le monde a entendu, quand on nous donne des millions, on se sert d'abord et on discute après, on réfléchit après. Quand vous entendez ça, il faut vous rendre compte que on est allé plus bas qu'on peut le penser et très peu de pays africains sont tombés aussi bas.
Oui, professeur, Oui, professeur, j'allais demander, au-delà des aspects culturels, au-delà du fait que l'on dit qu'on n'avait pas des dirigeants qualifiés, n'est-ce pas, pour gérer les pays, est-ce qu'il n'y a pas des décisions qui sont prises par contrainte? Est-ce que à certains moments, les contextes économiques internationaux n'a pas influé, n'est-ce pas, sur certaines décisions et qui se sont avérées par la suite comme étant des décisions pernicieuses?
Ben vous savez, Limaté, on discute souvent avec vous, vous connaissez mes écrits. Je n'ai jamais considéré que le fait que le monde nous envahisse, que les gens soient envieux de nos ressources, qu'ils veuillent même les exploiter ou caporaliser le Congo, nous sommes dans un monde ouvert, un monde en compétition. C'est notre capacité, non seulement à proclamer l'amour de notre pays, mais à travailler d'arrache-pied, qui peut nous aider demain à faire face à la situation d'aujourd'hui. Or, depuis 1960, à quelques exceptions près, on avait des hommes. On a cité tout à l'heure la première génération, les Kassavubu, les Lumumba. Vous vous imaginez un garçon qui sort de l'école primaire, qui a son certificat d'école primaire, qui est nommé ministre de l'enseignement ou que sais-je encore. Ces gens-là, nous leur devons beaucoup de respect aujourd'hui. Ils se sont battus à leur corps défendant pour gérer des ministères, pour assumer des charges administratives auxquelles ils n'avaient pas l'idée et auxquelles ils n'étaient pas préparés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Notre pays, depuis 1960, à quelques exceptions près, n'a jamais eu un gouvernement. Le gouvernement, pas au sens folklorique du droit. On a toujours le gouvernement au sens du droit. Mais le gouvernement, en tant que capacité de faire, la capacité de faire faire, ou la capacité d'interdire de faire, depuis 60 ans aujourd'hui, à quelques exceptions près, les quelques années de Mobutu, on n'y est pas encore. Or, dans un État où vous n'avez pas un gouvernement en tant que capacité de faire, on a des gesticulations, on a des proclamations de foi. Parfois, on peut mettre des millions dans telle ou telle chose. Trois mois après, un an après, c'est le vide. Alors, si ces choses-là, nous ne pouvons pas les dire au motif que, oui, vous voyez, on va dire... Non, nous avons, comme intellectuels, le devoir de dire la vérité. Notre pays va mal. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous souvenez, Limaté, lorsque le président avait dit, je ne sais pas dans quel discours, que le pays va mal... Et bien, c'est même le président de l'Antillais qui ne peut pas dire ça. Mais il n'a rien dit. Notre pays va mal. Et il va mal depuis bien longtemps. Et regardez l'enseignement de secteur que nous connaissons et dans lequel nous allons. À l'époque, il n'y avait pas autant d'étudiants que nous connaissons aujourd'hui. Mais depuis la fin du Dinaza, aujourd'hui, nous avons doublé, même triplé, le nombre. Le ministre Thomas ne va pas te me corriger. On n'a plus d'étudiants aujourd'hui, des diplômés, qu'il en fut autrefois. Mais quelle est la qualité des diplômes de nos étudiants? Quel est leur degré de savoir, de savoir-faire et de savoir-être? Nous sommes en train de reculer, même pour être dans les derniers rangs des pays du monde. Alors, tout ceci étant, je pense qu'il n'y a pas de raison particulière, sauf à faire de l'idéologie, de prétendre que le pays va bien et que les sont bilans. Non. Que certaines personnes, ministres, gérants, députés, sénateurs, à titre individuel, que les gens aient fait preuve de leur capacité de faire quelque chose, c'est évident. On ne peut pas citer individuellement les gens. Mais la question du développement, c'est une question de vision globale du pays.
Merci.
C'est notre capacité à faire des choses ensemble pour sortir notre pays de là où il est, dans un plus profond.
Merci, professeur Achimbe.
Le développement ou la capacité des individus est l'individu. On a des Congolais compétents, dévoués, qu'on peut trouver partout, que tu connais et que beaucoup de gens admirent. Mais le savoir individuel de quelqu'un, l'admiration qu'on puisse avoir de cette personne, si ceci n'entre pas dans une dynamique globale qui entraîne le pays vers l'avant, on peut admirer tel savant, mais ça ne permet pas de dire, puisqu'on a deux ou trois savants, ce pays-là peut aller de l'avant, surtout le problème de la désorganisation.
Merci. Merci
pour... on voit rarement dans l'histoire du pays un pays aussi désorganisé que la République démocratique du Congo.
Merci.
Chacun fait ce qu'il a envie de faire. On a parlé des transports, on a parlé des routes, parlons même de la circulation dans la ville. Kinshasa, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais même pas si c'est encore une ville, si même, oh là là, on n'a pas de mots pour être gentil.
Merci.
Nous sommes encore à mille lieues de ce qu'était tout à l'heure le professeur Molongo parlait de. On pouvait quitter Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Mais c'est comme un rêve. Quand je parle à mes étudiants que nous, on mangeait au restaurant universitaire, qu'on était logés en cité universitaire, c'est un miracle pour eux. Nos étudiants n'ont aucune idée.
Voilà, on va donner maintenant la parole aux auditeurs hein, qui sont nombreux en train d'appeler pour donner aussi leur point de vue par rapport à ces sujets. Honorable Thomas Louaka, vous allez réagir, hein, n'est-ce pas, à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Alpha Ben Sirac, depuis la ville de Kisangani. Depuis son accession à l'indépendance, la RDC a connu une trajectoire marquée par des espoirs trahis, des ressources immenses souvent mal exploitées et une gouvernance en quête de maturité. Sur le plan politique, la RDC a été fragilisée par des crises cycliques. Assassinats politiques, dictature, guerre, instabilité institutionnelle. L'historien Eli Kiamboko le disait, l'indépendance congolaise a été proclamée, mais pas pleinement assumée. Cette instabilité a affaibli la construction d'un État fort et protecteur. Sur les plans socio-économiques, malgré ses richesses minières colossales, la population reste majoritairement plongée dans la pauvreté. Le paradoxe de l'abondance où les ressources naturelles n'engendrent ni développement, ni bien-être est criant. À cela s'ajoute une corruption endémique, une faible gouvernance et des infrastructures sociales défaillantes. La RDC de 2025 est donc un géant au pied d'argile.
Honorable Thomas Louaka Losangiola.
Je partage tout à fait l'analyse de notre compatriote de Kisangani. Il a tout à fait raison. Mais je voudrais assez rapidement répondre sur quelque chose qui a été dit.
Par rapport à la qualification,
non,
à la formation.
Non, la qualification, non, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de culture politique.
Voilà.
Les choix politiques, vous avez parlé de la G-Cabine, de la MIBA. Je vois que les professeurs Molongo est très admiratif de la Deuxième République. Je voudrais lui recommander les mémoires de Kengo Adondo. Kengo Adondo a été trois fois Premier ministre sous le maréchal Mobutu. Allez lire ce que les témoignages de Kengo Adondo. Je vous donne un exemple, puisqu'on parle de la G-Cabine. Vous savez, un jour, Kengo Adondo, Premier ministre, il reçoit l'instruction du maréchal. Maréchal a besoin d'emprunter 20 millions de dollars à la Belgolaise pour faire quoi? Pour construire Guadolite. Et Kengo Adondo lui dit, c'est pas possible, il n'y a pas d'avenir, c'est une ville, il n'y a pas de perspective d'avenir, c'est complètement... enclavé, isolé, on ne peut pas créer une ville artificielle. Mobutu dit non, j'en ai besoin. Et les 20 millions de dollars, si je ne me trompe pas sur les montants, les 20 millions de dollars sont garantis sur les recettes de la G-Cabine. Donc la G-Cabine va hypothéquer ses recettes auprès de la Belgolaise avec la garantie du gouvernement Kengo Adondo et on sort 20 millions de dollars, on construit Guadolite. En tout cas, on lance les travaux de Guadeloupe avec les 20 millions de dollars de recettes de la Gécamines. Aujourd'hui, on en est où? Ken Wadonda avait raison. Guadeloupe, il n'y a plus d'activité. C'était artificiel. C'est lorsque le maréchal était là qu'il a créé des boucheries, et des boulangeries, une petite activité artificielle. Aujourd'hui, Guadeloupe peine à s'en sortir. Ils ont un barrage hydroélectrique, il faudrait que le gouvernement pense à eux. Il y a un pont inachevé avec sur la rivière Oubangui. Il faut les aider à achever ces ponts-là pour donner un peu d'air d'oxygène à Guadeloupe. Mais voilà les décisions politiques, les choix politiques qui ont un impact négatif sur l'économie du pays. Et puis, il y a... Oui, j'ai dit tout à l'heure les mini-diplômes. Non, les crises récurrentes. Vous savez qu'en 65 ans, donc depuis l'indépendance, le Congo a connu 15 guerres. 15 guerres dans ce pays. Et donc c'est un problème. Pourquoi nous ne mettons pas autour d'une table pour nous parler franchement en disant comment en finir avec ces crises récurrentes? Quelle est la cause de ces crises récurrentes? En 65, c'est le pays où on s'est le plus battu en Afrique. Et vous savez qui nous avait fait cette analyse? C'est le président Omar Bongo du Gabon. Il dit, pourquoi vous les Congolais, vous vous battez tout le temps? 65 ans, 15 guerres. Donc voilà, c'est des crises récurrentes. Il faudrait que nous puissions, entre nous, trouver une solution qui puisse apaiser, convenir tout le monde.
Merci, professeur Witt Boulongo. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'éditeur qui nous appelle depuis la ville d'Ekolozi dans les Lois là-bas.
Adonis Oswald depuis Kolwezi, province du Lualaba. Le bilan du pays, 65 ans après son indépendance, laisse voir un tableau peint en même temps des régressions et des quelques avancées. Sur le plan socio-économique, le pays ne décolle pas parce que la majorité des productions nationales est offerte exclusivement aux opérateurs économiques étrangers qui détiennent 75% d'actions au bénéfice de leur pays, au détriment des 25% réservés à l'économie du Congo, avec une faible promotion et subvention de l'État aux entrepreneurs congolais, ce qui conditionne la monnaie locale à une dépréciation continuelle. Sur le plan sécuritaire, rien n'avance par manque de concorde entre figures politiques et le pays compte sur l'expertise et compétences étrangères pour sa propre sécurité.
Professeur Witt Moulongo.
Merci beaucoup. D'abord, un grand correctif, je voudrais dire à mon frère Loaka que je ne suis pas admirateur de la Deuxième République. Mais j'ai fait le constat, c'est que de Mobutu à maintenant, il n'y a personne qui a fait.
Il dit que c'est l'impression que vous avez donnée.
Hein? Moi, j'ai combattu Mobutu depuis la France. J'étais encore étudiant. Mais un scientifique, c'est celui qui reconnaît ce que l'autre a fait, même lorsqu'il a combattu.
Professeur, deuxièmement, pour mettre un peu de l'animation dans l'émission, vous avez dit que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu un autre Mobutu. Donc vous regrettez Mobutu?
Oui, je regrette Mobutu, pas en tant que personnage, je ne sais, trop mythique, mais pour les œuvres. Vous savez, j'étais à la Conférence nationale souveraine, et j'ai dit souvent aux gens que cette pièce, cette salle dans laquelle nous insultons Mobutu, c'est lui qui a laissé ça. Hein, autant de barrages, c'est lui qui a laissé. Le stade Kamanyola que nous avons rebaptisé en martyr de l'indépendance, c'est lui qui a laissé. Donc,
tout à fait,
on peut ne l'avoir pas aimé, mais on constate. C'est juste ça ce que je voulais dire. Deuxièmement, je voudrais encore revenir à vous pour répondre à notre ami de Kolwezi. C'est que notre ami Thomas Louaka qui a donné une réponse. On a individualisé les intérêts au lieu de les socialiser, au lieu de les communautariser. On donne le pouvoir, hein, je crois que c'est encore lui qui a commencé par dire, dès que vous avez un peu le pouvoir, parce que même vous, la société, vous participez à ça. Vous dites à celui qu'on a nommé, et comme il tourne à Bissot.
Exactement.
Il y en a la logique, na yo wana,
exactement.
Alors quelle est la conséquence? On individualise les intérêts qui auraient dû être ceux de la communauté. C'est ce que d'ailleurs j'ai eu déjà à dire. La conséquence c'est quoi? Dès que ces gens-là ont eu quelque chose dans les aventures des Chinois, les aventures de je ne sais quoi, ben c'est la rétrocommission qui compte. Je vais terminer par cet exemple le plus récent, qui est honteux, qui est honteux. Comment on peut aller vendre les noms du pays sur le maillot de Monaco et des Juventus, non, c'est pas Juventus, mais
AC Milan.
L'autre qu'on ne sait même pas, lorsque les touristes viendront, ils viendront pour faire quoi? Pour voir quoi? Est-ce que quelqu'un me disait dans l'avion qui m'amenait aujourd'hui ici, il me disait, mais est-ce que telle décision est passée au conseil de ministres? On m'a dit oui. Mais alors, quand c'est passé au conseil de ministres, est-ce qu'ils ont répondu à cette question? Lorsqu'on veut vendre le pays aujourd'hui, ces gens-là viendront voir quoi? Dans le domaine sportif, ils viendront voir quoi au stade des Martyrs? Ils viendront voir quoi? Ils vont passer dans quelles avenues, dans quelles rues? Je crois que c'est ça l'insensé qui est fait sensé. Hein? Il faut. C'est triste.
Merci professeur. Non. Merci professeur Moïna Tchiembe. Professeur Moïna Tchiembe, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Espérant Jardel de Kinshasa. Depuis son indépendance il y a 65 ans, la République démocratique du Congo sombre pour un manquement à sa tête d'un leadership responsable pouvant conduire le pays au développement. Malgré sa richesse dans les sols et les sous-sols, mais reste la main tendue à l'extérieur. Cette faiblesse des dirigeants a occasionné un déséquilibre au sein des institutions avec l'instauration de la corruption et le vol de ses ressources par les puissances étrangères. En complicité avec des voisins, des dirigeants congolais et certains acteurs communautaires, cette date du 30 juin nous rappelle les martyrs de ces pays qui s'éveillent enfin de se tenir. Mais...
Professeur Moïse Tchiembe.
Oui, je pense que la réflexion de notre compatriote illustre bien le dilemme dans lequel se trouve la République démocratique du Congo. Nos enseignants nous disons que le pays est riche, l'abondance de ressources, biodiversité, etc., c'est tout à fait évident. Mais lorsque vous comparez la ratio entre ces potentialités minières, forestières, etc., et la vie des Congolais, il y a de quoi pleurer. En son temps, on pouvait donner 3 repas à ses enfants. Très peu de gens aujourd'hui. Je suis enseignant du matin, comme tu le sais. Je vois mes étudiants effondrer après 1 heure de cours à cause de la faim. On n'y peut rien. Beaucoup veulent bien s'approcher, mais ils ne veulent plus tenir. Pourquoi? Parce que même à l'université, nos étudiants, très peu de nos étudiants, mangent chaque jour pour venir à l'université. Vous rendez bien compte le trou dans lequel se trouve notre pays. Si déjà les élites que nous formons, les gens n'ont plus rien à mettre sous la dent, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Alors, quel avenir pour notre pays? Nous devons souhaiter que le leadership congolais, les élites, j'en passe les meilleurs. Nous devons nous dire la vérité, notre pays va mal. Il ne faut pas se le cacher. La question est, qu'est-ce à partir du moment où nous constatons que notre pays va mal? Pas seulement aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ont l'œil rivé sur il y a 4 ans, il y a 5 ans. Non, ça fait longtemps que notre pays va mal. Ça a été dit et répété, mais on ne s'est pas demandé qu'est-ce qu'on doit faire et comment on va le faire.
Justement, professeur. Nous devons maintenant conclure en proposant des pistes et des solutions. Qu'est-ce qui doit être fait dans l'avenir, n'est-ce pas, pour améliorer les choses? Professeur Moïse Tchiembe.
Les choses peuvent être améliorées à condition que nous nous donnions les moyens d'avoir les éléments constitutifs de l'État que nous devons valoriser. Si nous avons un État gendarme, la capacité de sécurité et de défense de notre pays. Si nous avons un État savant, c'est-à-dire qui pense l'avenir, qui prend des solutions raisonnables après débat et discussion et qui prend les risques. Et si demain, ce n'est pas une affaire d'un homme, ce n'est pas même une affaire d'une élite universitaire ou non, c'est notre capacité collective à changer le destin de notre pays. Les gens sont là, découragés, d'autres, comme ça a été rappelé par M. Mulongo ou même le ministre Thomas Loaka, les gens sont là pour leur cause. On devient ministre, on devient DG, c'est pour les regarder d'abord chez soi, parce qu'on sait que c'est précaire. Si demain tu n'es pas DG, les gens ont honte de te voir dans un bus à vélo, et tiens, lui, il était DG et il a châtié. Donc c'est considéré comme quelque chose de ridicule, c'est une question culturelle.
Merci.
Nos populations honorent les gens qui volent, les admirent même. Vous vous rendez compte, dans un pays où on admire les gens qui ont volé. Parce qu'il va redistribuer dans sa famille, dans son clan, dans sa tribu, etc. C'est ça qu'il faut combattre.
Merci.
Et il faut avoir l'honnêteté de le dire, notre pays va mal, ce n'est pas la fête d'une personne ou d'un gouvernement, c'est une responsabilité collective de nous tous, là où chacun peut balayer devant sa porte pour dire notre pays va mal, il faut se mettre au travail, il faut avoir un œil ouvert, faire des propositions pour que les choses changent. Voilà ce qu'il faut dire.
Merci, je considère ça comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Honorable Thomas Loaka, vous allez aussi conclure. Hein. Vous êtes passionné de l'histoire de la RDC, chercheur en histoire, vous êtes ministre et député national honoraire. Et est-ce ce sont les paradigmes qu'il faut changer ou c'est plutôt l'homme congolais qu'il faut formater comme on le dit? Pour espérer à un avenir meilleur.
Il faut les formater par rapport à un nouveau paradigme. La question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous voulons faire du Congo? La réponse est connue. Dans notre hymne national, nous le disons, nous voulons bâtir un pays plus beau qu'avant. Ça veut dire quoi un pays plus beau qu'avant? C'est un pays où règne la paix, la justice et le travail. Où il y a du travail pour tout le monde. Mais comment atteindre ces objectifs? Pour avoir la paix, il nous faut une armée, une police, un service de renseignement professionnel et efficace. On prend ça, c'est une priorité. Pour avoir la justice, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former des magistrats, il faut bien payer les magistrats, il faut construire des infrastructures. Vous savez que dans notre pays, il y a certains territoires qui n'ont pas de tribunaux. Comment les gens vont régler leur contentieux? Et puis, comment créer du travail pour tout le monde? Il faut être attractif, appeler les investisseurs pour qu'ils puissent venir. Aujourd'hui, nous sommes en très bons termes avec les Américains, mais il y a quelques semaines, nous avons vu, les Américains nous ont mis sur une liste noire des pays infréquentables dans le monde. Les Américains déconseillent à leurs citoyens de venir au Congo, en RDC. Nous sommes sur le même plan que le Yémen, l'Afghanistan, la Somalie. Ça ne joue pas à notre faveur. Donc nous devons nous dire, voilà, nous avons défini nos objectifs, voilà comment on va faire, mais sur le plan politique, la réponse est simple. La formule est connue, ce que j'appelle les codes PIN. Pour ouvrir le Congo au développement, il n'y a que deux choses à faire. Mettre des gens compétents qui ont une certaine éthique de l'intérêt général. Lorsqu'on applique ces principes-là à tous les niveaux, on va développer ces pays.
Merci, je considère ça aussi comme votre conclusion. Professeur Witt Mulongo, vous êtes professeur émérite à l'université de Lubumbashi, vous êtes écrivain et acteur politique. Hein. Vous avez dénoncé le fait qu'on avait individualisé, n'est-ce pas, les intérêts. Et qu'est-ce que vous proposez pour que l'on puisse connaître demain un Congo meilleur?
Je vais déjà surfer sur ce que le collègue Moïla Tchiembe a donné comme premier élément, les moyens. Mais pour arriver aux moyens, il faut qu'on arrête, qu'on mette fin au vol et au détournement, parce que ce n'est pas des moyens qui manquent au pays. Qu'on arrête les vols et les détournements, et à ce moment-là, le moyen que nous avons peuvent être destinés au développement. Je parlerai aussi du retour à la dialectique de la contradiction ou des contradictions. Dans un pays où on ne peut plus dire qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle autre orientation, mais c'est un pays qui est condamné à la mort, parce que lorsque ne vous contredit pas, on vous enferme dans le retour au nombril. à votre nombril. Vous êtes persuadé qu'il n'y a que votre nombril qui est le plus beau. Donc il faut qu'on rentre à la dialectique des contradictions. Ça entraîne les libertés d'expression. Hein, qu'on rentre à une presse libre, capable de dire ça c'est pas correct, ça c'est correct. Ça ne tue personne. Moi, tel que je suis là, je suis sûr que même les collègues Moïla Chinyembe ou même Thomas, si on lui dit Thomas, ce que tu fais là n'est pas correct, je ne crois pas que ça va lui enlever sa dimension d'historien qui est devenu de plus en plus attitré dans notre pays. Donc on rentre à ça. On reprenne la voie des contradictions acceptées.
Merci.
Je parlerai également pour terminer. Je m'excuse. De la justice. Le président lui-même avait dit que notre justice est morte ou une formule pareille. Mais depuis qu'on a déclaré sa mort, il n'y a aucun effort, soit pour la ressusciter, soit pour la réengendrer, aucun effort. On patauge là-dedans. Or, la justice partout au monde, c'est elle qui est le vrai gendarme du développement d'un pays. C'est pour ça que en Europe, les Macron, tout le monde là-bas, là, ont peur de faire du n'importe quoi, même s'ils sont corrompus et corruptibles, car la corruption, c'est un élément sociologique. Mais c'est une justice forte qui permet d'amoindrir tous ces à côté-là.
Merci.
Voilà
merci.
Ce que moi je peux dire en conclusion.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, honorable Thomas Loa Carlos Senjola, professeur Witt Mulongo et professeur Moïla Chiembe. Merci également à Étienne Lissumbu et Benjamin Mudumbi qui ont réalisé cette émission. Diédouni Nyangasa et Jean-Claude Nsiala étaient à la technique sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.